Vous écoutez
RMC.
Alors, Olysée, effectivement, on n'en a pas parlé. Il y a quelques joueurs qu'il faut qu'on évalue. Comment jugez-vous le match d'Olysée ce soir qu'on a un petit peu moins vu?
Moins bien.
On doit parler en termes de highlights et de nombre d'apparitions à l'écran. Oui, Olysée a été moins en vue que les deux autres matchs. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on a envie de le critiquer pour sa prestade ce soir? Pour ce qui me concerne, non. Olysée est là. Il reste pour moi l'un des patrons, le playmaker de cette équipe. Donc, c'est tout. J'ai pas grand-chose à ajouter. Mais le constat, il est implacable. Oui, on l'a moins vu.
Non, mais joueur très, très important. Et on le sait. Hein, quand ça va s'intensifier, il a quelque chose dans les crampons de spécial pour nous faire gagner la Coupe du Monde. Maintenant, il faut avoir aussi un devoir de réalité et d'honnêteté contre l'Irak. Ils lancent son match sur la deuxième mi-temps comme contre le Sénégal, et là je trouve qu'il traîne un peu la jambe sur la rencontre. On l'a très très peu vu. C'est un peu le mauvais côté d'Olysée. Moi je suis un grand fan du joueur, mais parfois il se lève un peu tard quoi pour le sortir du lit. Après quand il sort du lit il fait des grandes choses toute la journée, hein, et il fait tout ce qu'il a à faire. En réunion il vient un peu à 10h20 10h30 quoi. Après bon, il te règle toute l'histoire, hein, c'est-à-dire que il te fait il te fait le boulot, mais par contre pour le sortir un petit peu, des fois s'il a pas envie, il a pas envie quoi, Michael. Donc c'est un petit peu son péché mignon. Mais on doit, quand on critique Dembélé ou quand on critique Doué ou quand on critique Mbappé, il faut aussi le faire avec Olysée. Mais comme l'a dit Daniel, on a tellement espoir en ce qu'il peut réaliser sur le terrain que on le passe un peu plus sous le tapis. Donc mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu un grand Olysée aujourd'hui.
Jean-Louis, ton avis?
Non, bah rien de plus, je suis d'accord avec vous. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut faire des matchs où les trois devant sont énormes en
oui.
même temps?
Oui, voilà, c'est une bonne question.
Je me pose cette question parce que je me dis aussi que pour que Dembélé en profite autant, bah, il faut aussi que les deux du milieu, donc Mbappé et Olysée, attirent
tout
beaucoup
l'attention.
Tout le monde
ne peut pas croquer dans le même gâteau.
Bah, j'ai l'impression, enfin après, peut-être je vais me tromper hein, sur
oui,
les matchs qui arrivent, mais pour l'instant, j'ai cette impression-là.
En
tout cas, là, je me suis fait la réflexion sur ce match, c'est qu'il y avait beaucoup de monde dans l'axe, beaucoup de densité, parce que je pense qu'ils avaient peur du duo Mbappé-Olysée, ce qui était normal après les deux premiers matchs, et ça a laissé pas mal de liberté à Dembélé sur son côté. Il a pu faire ses fameux 1 contre 1 et marquer. Comme ouais. je pense aussi que sur les matchs précédents, et bah Dembélé c'était le ballon d'or, il y avait une grosse attention sur lui, et donc bah ça ouvrait un peu l'axe à Olysée.
Voilà. Alors non seulement je suis d'accord avec toi, ouais. mais en plus on a également eu la réponse qu'un Dembélé actif sur son côté droit, puisque certains disaient peut-être qu'il ne sait plus faire le 1 contre 1, peut-être que dans cette position axiale il va moins marquer. Or les buts de ce soir sont tous venus réellement dans une position, on va dire, de côté droit quoi.
Et au passage,
soit il rentre à l'intérieur avec le pied gauche, soit il est parti avec le pied droit.
Il n'y a pas de différence sur les 1 contre 1, il n'y a pas de différence de Ousmane Dembélé. C'est je fixe, je
ouais,
frappe.
Ouais.
Il y a pas de, il ne passe pas avec le crochet comme oui, comme à l'époque.
Il passe pas, mais j'appelle ouais. ça quand même une élimination.
Bien évidemment. Il contourne
face à toi. Mais il est évité.
Mais sur le fait, si on se posait la question, est-ce qu'il peut être dans la percussion comme avant, etc. Il s'adapte là sur et il a cette efficacité sur le match. Mais je trouve ça très vrai ce que dit Jean-Louis. Et je m'étais pas fait la réflexion, c'est que la force après ce premier tour, c'est que si tu veux caler Mbappé. Bon courage, parce qu'il va falloir derrière regarder Olysée ou Dembélé et ainsi de suite. Et ça, c'est très très bien pour l'équipe de France, parce que la force, elle est diluée, et que on peut avoir une deuxième partie de compétition où un jour ça va être le duo Dembélé-Mbappé, un jour ça va être Olysée-Mbappé, ça peut être aussi Bradley-Barcola, parce qu'il va falloir
en parler.
On en parlera.
Il faut
qu'on
laisse Jean-Louis parce qu'il est en train de se faire virer du stade.
Et ça, c'est une force.
Et oui.
C'est ça.
Et
c'est ça.
On peut pas faire un after en entier au stade alors.
Bah là, c'est la première fois là depuis le début de la Coupe du Monde qu'on me dit c'est 90 minutes la règle après le coup de sifflet final, donc voilà. Il faut y aller. Et Barcola, moi j'aime beaucoup ce qu'il propose, hein,
oui,
depuis le début de la Coupe du Monde. Hein.
Ah oui. C'est le grand gagnant de la phase de coupe.
Comme je vais partir, honnêtement, je pense que Doué est un meilleur joueur que lui intrinsèquement, mais ce qu'il apporte,
moi, il est devant
profil,
Doué,
c'est excellent. Ah oui, je suis d'accord.
Et c'est une Coupe du Monde pour lui. Je pense que c'est une Coupe du Monde pour lui.
Dans un instant, on parle de Barcola et de Doué. Le 32-16 est ouvert. Le Sénégal. Ah non, on peut continuer, me dit Jimmy. Bon, on continue. Il n'y a pas de pub en fait. Il n'y a pas de pause fraîcheur.
Okay. Il nous a fait la feinte spéciale Germain.
Exactement.
Ah, il a fait ça aussi.
Ouais, pub, il y a la pub et tout. Et bon, on fait autre chose. Et puis il dit, mais non, on continue. Je ne me préviens pas.
Pub, pas pub. entre la pub et l'animateur, il y a un manque d'automatisme entre la pub et l'animateur.
Est-ce que c'est Jimmy qui décide d'envoyer les pubs? Qui décide en fait?
C'est Jimmy le boss.
Ah d'accord.
Mais là, comment ça se passe là? Pourquoi il y a un faux départ? Explique-nous un petit peu.
Alors il y a un faux départ parce qu'en fait, j'explique. On a des découpages, qu'on appelle les découpages.
Ok.
Le découpage classique.
Ok.
C'est pause fraîcheur à la 15e minute, cooling break à la 30e et pause Kit Kat à la 45e.
D'accord.
Mais là, quand on est après minuit,
okay.
Des fois, ça peut devenir pause fraîcheur à 20 et pause cooling break à 40.
Donc, il faut s'adapter entre le avant minuit, après minuit.
Voilà, mais des fois, on est en retard. Voilà. Bon, bref,
donc parce qu'on a trop parlé, parce que nous, on a trop parlé.
Donc, il faut faire preuve d'intelligence situationnelle.
D'accord.
Voilà, et je veux dire que Nicolas Jamin et moi, on est maîtres en intelligence situationnelle.
Et vous avez bien raison.
Surtout Nico, bien sûr.
Oui, surtout, oui. Nico, pas tous les jours.
Donc Barcola.
Ouais. Barcola, non, pour moi Barcola est le grand gagnant de cette phase de poule. Je pense que c'est une Coupe du Monde pour lui, parce que dans son profil, dans l'adaptation qu'il peut avoir aussi au football proposé par Didier Deschamps.
Encore faut-il qu'il soit titulaire en fait.
Sur le changement de rythme, non, mais que ce soit en démarrant ou en sortie de banc, moi je pense que Bradley Barcola va avoir un grand rôle. Tu vois, si on doit me demander qui tu préfères entre Cherki et Barcola, moi je préfère Ryan Cherki. Mais sur le début de la Coupe du Monde.
Pas, oui.
Ah, mais sur le début de la Coupe du Monde, sur le 12e homme, sur le joueur qui peut faire la différence, Bradley Barcola met une tempête à Ryan Cherki et même à Désiré Doué sur le terrain, parce que changement de rythme, parce que appel en profondeur, parce que rôle différent par rapport à Mbappé, Olise et Dembélé, parce que je pense que se taper un Barcola pendant 90 minutes dans ce football de sélection, c'est pas simple du tout. Et on a une vraie gâchette, on a une vraie balle avec Bradley Barcola. Il va falloir
toutes ces prises d'espace. Ouais, ouais, après, on peut pas.
Avec ses défauts et ses qualités, voilà, mais il est positif.
Néanmoins, je suis en train de dire des choses positives, au moins 80% sur ses entrées, ses apparitions, ce qu'il fait sur le terrain. Mais mes yeux restent toujours un petit peu frappés parfois par une conclusion d'action encore un peu déficiente. Ça, j'ai encore, sur certaines actions, un petit peu du mal avec le geste final de Barcola. Mais je répète, c'est pas ce que je dis quand je le vois jouer avec le PSG, que là, pour moi, il est devant Doué. J'ai vu Doué sur certaines actions, se perdre dans des gâchis, des tentatives un petit peu superflues. Il a marqué son but de la tête. Ça va
sur un très beau service de Barcola.
Voilà, exactement.
Un très beau travail.
Pour moi, Barcola est devant, malgré les deux, trois lacunes qu'on pointe
régulièrement. Et en fait, à chaque fois, on arrive à le lancer. On arrive à trouver les schémas de passe pour le lancer. Il y a notamment une grosse occasion où Mbappé fait la bonne course. Et là, Barcola, il sent pas le coup. Il doit la jouer en retrait. Il s'en mêle un peu les pinceaux. Mais contrairement à Doué, en fait, si on doit comparer, Doué a une palette beaucoup plus globale. Pour moi, il a plus de talent que Barcola. On va pas encore une fois le répéter. Mais en fait, dans ce système-là, en équipe de France, je trouve qu'il fait trop la toupie, Doué. En fait, il prend le ballon et il tourne sur lui-même. Et en fait, ça ralentit le jeu.
Le retour du tourniquet, tu te souviens, Verratti?
Ah, le tourniquet.
Non, mais tu sais, il tourne un peu sur lui-même. Ok, je prends le ballon, je garde le ballon. Ouais, mais après,
est-ce que si tu me c'est pas tellement un tourniquet, c'est plus un ventilateur.
Oui, c'est vrai.
Parce que ça va plus vite.
Ouais, ça ventile.
Et ça ventile.
C'est vrai, ça ventile. Sauf qu'en fait, face à un bloc bas, il fait pas les courses en profondeur. Alors que Bradley Barcola, constamment, c'est appel contre appel. Et ça étire énormément et ça ouvre des solutions et une variété dans l'animation offensive de l'équipe de France bien différente. Et ça, pour moi, ça peut nous aider sur la suite de la compétition.
Cherki a joué 25 minutes. Est-ce que vous l'avez vu?
On l'a très peu vu. Très peu vu, mais c'était moins.
Pour l'instant, le Cherki de ce début de Coupe du Monde.
Il est dans le labo, là, pour l'instant.
Et pour moi,
il est dans l'étui.
Je vais pas dire inexistant, ce serait 100% sévère, mais à 80% inexistant. J'ai pas vu grand chose de positif. Il lui reste le plus beau de la compétition à venir pour, quand il y aura des entrées, nous montrer sa classe. Mais pour l'instant, on peut pas le mettre en avant.
Ouais, même ça.
Oui,
ça,
et puis non. Vu le rendement des quatre.
Oui. Non, mais de toute façon, moi, là, je parle juste en sortie de banc parce que le rôle de Cherki, c'est en sortie de banc. Et pour l'instant, j'ai trouvé que le rythme était pas assez conséquent pour Cherki. On en a déjà parlé contre l'Irak. Je pense qu'il doit aussi assimiler ce rôle de remplaçant. Peut-être qu'il avait d'autres velléités sur la suite de la compétition. Il a loupé le premier virage, Ryan Cherki. Maintenant, connaissant bien le joueur, il va être animé par, enfin je souhaite, en tout cas j'espère, mais il nous l'a déjà montré, animé par les grands, par les blockbusters, par les gros matchs, par les grosses rencontres, et ça, son génie, sa qualité de passe peut nous faire du bien. Il aura son image. Moi, je suis persuadé qu'il aura.
Il va y avoir un moment Cherki.
Ouais, il y aura un moment Cherki. Le moment Cherki qui nous sort un peu de la merde. En tout cas, il est là pour ça. Et je suis persuadé que plus ça va monter en puissance, plus Cherki va faire une entrée impactante.
Il sera déterminant.
Ouais, je pense.
Parce que
si Cherki se met en plus à faire des entrées déterminantes, mais qui va pouvoir arrêter les Bleus?
En tout cas,
est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'à ce point-là, il y ait une espèce de comment dire de conviction chez autant de gens qu'une équipe doit être championne du monde et qu'au final elle l'est?
Non, championne du monde, je sais pas moi. Je le mets dans le chapeau.
Parce qu'il y a énormément de gens qui le pensent quand même. Hein.
Remontons l'histoire.
On a du mal à voir quelle équipe.
Non, attention.
Moi, j'ai un exemple en tête.
Ouais.
Mais franchement, on a du mal à comprendre quelle équipe peut battre ces Bleus.
Oui, mais attention, moi j'ai dit que les latéraux ça pue.
L'Espagne, l'Argentine,
Angleterre. Pour moi, c'est les quatre. Pour moi, t'as le gagnant dans les quatre. Maintenant, ouais. Dans ces quatre équipes-là. Moi, je pense que la France, offensivement, peut gêner tout le monde, en fait. Mais après, de toute façon, il y a beaucoup d'équipes où c'est du 50-50. Mais l'équipe de France, oui. Moi, j'ai des ondes positives.
Le Brésil en 2002, c'est écrit dès le début et ils y arrivent.
Non, attention. Moi, pour moi, l'Espagne reste la favori hein, de la compétition avant le tournoi. Maintenant, parce qu'en plus, à chaque fois qu'on les a rencontrés, on a perdu contre eux là récemment en Ligue des Nations et au dernier Euro. Mais par contre, j'ai un mood très positif.
Tu te souviens des matchs les matchs contre l'Espagne dont tu parles, ils sont toujours assez spectaculaire et effectivement tu subis. On les a jamais joués en revanche dans un schéma comme on a maintenant.
Si on les a joués en Ligue des Nations, il y a 4 devant. Ouais. Olise en 10, Dembélé c'est son match post-Ligue des Champions, post-finale de Ligue des Champions
où
il joue à droite.
Match où ils prennent une tempête et où ils sont menés et
5-1 et reviennent.
Cherki
la rentrée de Cherki
d'un coup et ça termine à
5-4. Ouais. Mais avec une défense Clément Lenglet Konaté.
Ce match-là.
Et Kaloulou sur le côté.
Voilà. Ce match-là, quand même, montre que. Parce qu'il y a également l'Euro 2024, où dans le jeu, tu te fais balader, mais à chaque fois, tu peux leur faire beaucoup de mal. Alors qu'on adore le jeu de l'Espagne, que nous, perso, on est fans, toi, moi, de ce qu'ils proposent et tout. Mais à chaque fois, on arrive à leur faire beaucoup de mal.
Oui, parce qu'en fait, sur peu de situations, vu la fébrilité qu'ils ont derrière, et vu la qualité qu'on peut avoir, on peut leur faire très très mal. Peut-être qu'au milieu de terrain, ils vont être meilleurs, mais après, ça va être une histoire de rapport de force. Et là où c'est intéressant, c'est que sur le match, sur l'Euro, où Colomboigny ouvre le score.
Je suis pas complètement inquiet, tu me dis demain, tu joues l'Espagne.
Oui, moins inquiet qu'il y a deux ans. Moins inquiet qu'il y a deux ans, et encore il y a deux ans.
Attendez, maintenant je vous propose un autre jeu rapide.
Ouais.
Dans les Coupes du Monde récentes, où est-ce qu'on a eu autant de certitudes sur l'équipe de France à l'issue du premier tour? Par exemple, moi je me rappelle, 98, il y avait des doutes. 2006, on se qualifie à l'arrache, rappelez-vous, dernier match contre le Togo.
Bon. 2010, on n'en parle pas.
2014,
tu y as le 3-0 Honduras.
2014.
Équateur et Suisse.
Alors, 2014, le problème, c'est que tu y vas sans réelle ambition, mais la phase de poule, elle est réussie.
5-2
elle est excellente, la phase de poule.
Il y a un gros
mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu te dis pas que t'es dans les favoris pour aller gagner le titre.
Tu joues le Nigeria en 8e et après.
Tu te dis pas. Même quand tu perds contre l'Allemagne, t'as même l'impression que c'est un peu normal. Même si Benzema, à la fin, manque d'égaliser, toi.
2018. T'as le but contre l'Australie, la dernière seconde.
Non, mais tu rates le premier match, mais après, c'est propre.
Non, Pérou, c'est 1-0. Pérou, c'est pas dingue.
Oui, mais c'est à la mode des gens de l'époque. Oui, mais
tu lances sur le match du chaos contre l'Argentine. Moi, je me rappelle, France-Argentine.
2022, tu pars contre la Tunisie dans un match de coiffeur.
Oui.
Dernier match.
Mais 2022, c'est mieux. Danemark, t'es au-dessus. Ouais. Non, pour moi, 2018, tu sors contre l'Argentine. Avant le match. Je faisais pas des émissions RMC, mais à ce moment-là, je me dis oulala, l'Argentine peut te sortir.
Donc là, on est quand même dans la fourchette haute.
Oui, mais là, on est vraiment dans pas mal de certitudes qui te poussent.
Après,
à
faut pas oublier qu'on est dans un format aussi là où t'as un 16e, t'as un 8e pour arriver en quart. Donc là, le chemin il est un peu plus long. Il va avoir des matchs au coup près. Ça va être intéressant à suivre. C'est un nouveau modèle.
Encore deux petites choses. Vous dire, rappeler que là, Guy Stéphane a profité pour faire donner des minutes de jeu à des gars qui peut-être n'en auront plus. Parce que est-ce que Konaté, on le reverra? C'est pas sûr.
Non.
Est-ce que Mateta, on le reverra?
Non.
C'est pas sûr. Gusto?
Non.
Même si beaucoup.
Là, je parierais pas de resto sur Gusto.
Voilà. Donc, il y a eu aussi une petite gestion là, histoire de dire voilà, vous avez aussi joué quelques minutes, les gars.
Tout le monde a joué, je crois, non? Jimmy,
Thuram est rentré, fin de
match. Non, Thuram n'est pas rentré, non.
Thuram n'est pas rentré?
À part Thuram qui était un peu blessé, je crois. Sinon, Akliouche est rentré.
Zahir
Emri n'est pas rentré. Kanté n'est pas rentré aussi, non?
Ouais, N'Golo Kanté. Bon, après, les gardiens, évidemment.
Oui.
Ouais, c'est tout. C'est tout. Bon, voilà. Oui, Maignan, un petit mot, c'est le dernier qu'on n'a pas évalué.
Penalty arrêté.
Ah si, Thuram est bien rentré, c'est ce que je pensais, contre l'Irak.
Ah oui, rentré
contre l'Irak. Fin de match. Maignan, là, ce soir, il n'a pas eu grand-chose à faire, il a arrêté un péno.
Penalty arrêté, et je pense que dans les séances de tir au but, contrairement à Hugo Lloris.
Moins de relances ratées,
oui.
Aussi.
Ça va être une force, je pense, si on a...
On a cette possibilité là en plus, même si c'est vrai que Mike Maignan cette année, que ce soit avec l'AC Milan ou même avec l'équipe de France, j'ai pas été hyper rassuré, mais en tout cas moi j'ai confiance.
Moi je veux pas m'inquiéter pour
Maignan. Voilà, j'ai confiance en Mike Maignan.
Vous pensez que
de toute façon on n'a pas mieux. Voilà. Il est là. Il t'envoie un message fort aujourd'hui encore avec cette histoire de pénaux. Là, c'est son point fort là qui fait peur à tout le monde. Voilà, il y a des moments où il faut pas se casser la tête et se poser trop de questions. T'as personne, t'as pas de choix, t'as pas d'alternative. C'est lui, bah ça, on y va quoi. Voilà.
La question n'a pas été posée à Guy Stéphane, mais vous pensez qu'il recevait des petits messages de Didier Deschamps sur le coaching et tout ça, Deschamps l'a laissé.
Honnêtement, j'ai même pas envie de parler de ça. C'est une journée beaucoup trop compliquée, trop difficile dans la vie de Deschamps. Je veux même pas savoir.
Bon, non, mais c'était pour avoir un peu les coulisses.
Non, mais j'ai pas envie de savoir.
Parce qu'on me dit là sur le chat YouTube, on me dit Guy Stéphane, homme de l'ombre, a voulu faire jouer les hommes de l'ombre.
Non, mais laisse le chat tranquille sur ce genre de conneries là. Laisse tomber.
J'ai pas compris, j'ai pas suivi.
Non, mais laisse, il y avait rien à suivre.
Rien de dramatique. Okay.